RTL l'équipe, carrément moteur, Christian Pasquet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue carrément moteur, une heure d'info, une heure d'actualité sur les sports mécaniques et l'actualité est riche, il faut se le dire, il y a de la moto ce week-end, il y a aussi de la Formule 1, du GP2, c'est de la monoplace également. Nous allons revenir également sur le championnat du monde des rallyes. Il y a eu du bruit, du foin, de la fureur, enfin il y a eu plein de choses en Grèce, il faisait chaud, il y avait des cailloux, ça plaisait pas à tout le monde. En tout cas, il s'est passé des choses, nous allons y revenir dans quelques instants. Et pour m'accompagner pour cette dernière, comme vous l'a dit Fred Schwecker, eh bien, les incontournables, évidemment, Bruno Scagliotti. Salut Bruno.
Salut, c'est la première fois qu'on me traite d'incontournable.
Il y a également autre incontournable homme d'actualité. Il a un peu fait l'actu d'ailleurs le week-end dernier. C'est Jérôme Bourret du quotidien L'Équipe. Salut Jérôme.
Salut Christian, salut Bruno, bonjour à tous.
Et un peu plus loin, mais pas si loin, de l'autre côté du téléphone et de la Loire, nous retrouvons François Doré. Salut François.
Bonjour Christian, bonjour à tout le monde, bonjour à vous Bruno, incontournable, bonjour à ce cher Jérôme Bourret.
Salut François.
Salut François.
Jérôme Bourret qui a tendance à mettre le bazar des fois. On dit ça comme ça, mais... Bon, en tout cas, je vous l'ai dit en préambule, du rallye, de la moto, de la F1, voilà le programme du jour. Parce qu'il y a, mine de rien, trois championnats du monde qui se poursuivent. Il y a le rallye la semaine passée.
Ils continuent quand même, eux.
Et, bah, eux, ils n'arrêtent pas en pleine saison.
C'est Bernie est en pleine réflexion.
Bernie, on va l'appeler. Bernie, on arrête carrément moteur. Donc,
il arrête la F1,
faudrait peut-être arrêter
les Grands Prix. C'est l'info du jour. Enfin,
bon, allez, les garçons, plaisantons, plaisantes. Mais l'actualité n'attend pas.
RTL l'équipe. Le rallye.
Le rallye, c'était en Grèce, et alors si j'ai bien lu toute la presse spécialisée, notamment notre confrère Jérôme Bourret, et puis ici ou là, il y a eu quelques mouvements et chez notre radio grande sœur RTL, où on a entendu pas mal de choses. J'ai envie de dire, mon cher Jérôme, que ça dansait pas mal le sirtaki quand même du côté de l'Outraki là. Hein.
Grosse salade grecque. Ouais.
Ouais, grosse salade grecque parce que, alors on l'a dit, bon, alors ça c'est pas une nouveauté évidemment, mais la règle du balayage on la connaît, c'est en rallye eh bien quelque chose d'assez ouais, pénible parce que voilà, le premier du championnat du monde ouvre la route, une règle qui a été instaurée il y a quelques années, un peu faite, vous me dites si je me trompe, mais pour contrer Monsieur Loeb qui avait tendance à être dominateur et sans partage, et puis même quand c'est comme ça, il gagne encore. Seulement là, c'était plus compliqué en Grèce parce que là, pour le coup, balayage, c'était vraiment faire un gros ménage sur les pistes.
Ouais, 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 on l'a vu avec notamment entre le vendredi et le samedi. Le vendredi, Peter Solberg est cinquième sur la route. Il met 50 secondes à tout le monde, dont à Sébastien Loeb qui balayait ce jour-là. Là, on se dit que Peter Solberg a course gagnée. Badabam, le lendemain, il balaye. Et en 4 spéciales, terminé. Ogier repasse devant, puis Loeb. Enfin, il s'est fait exploser toute la journée, Peter Solberg. Donc, ce qui prouve que balayer est vraiment un exercice difficile et que des garçons comme Loeb et Ogier, là encore, sur ce domaine, ont une longueur d'avance sur tout le monde.
Bruno, t'es quand même un expert du rallye. T'as cru un moment que Peter Solberg avait course gagnée ?
Eh oui, on l'a tous cru. Hein. Vendredi soir, Loeb et Ogier, les premiers, disent « Bon, bah, nous, maintenant, c'est fini, on se bat pour la deuxième place. Peter a fait des chronos incroyables aujourd'hui, il n'y a pas que du balayage, il est survolté, ça y est, c'est son rallye, cette fois, ça va le faire, on ne voit pas ce qui peut lui arriver. »
Il lui arrive toujours quelque chose.
Et oui, et là, le pire, c'est que là, il lui est rien arrivé. Si ce n'est qu'il avançait plus une fois qu'il s'est retrouvé dedans, mais il n'a pas fait de boulette. Il a fait un tout droit qui lui coûte 5 ou 6 secondes, donc ce n'est pas grand-chose. Pas de pépin mécanique. Il ne s'est même pas plaint de la voiture qui était réglée idéalement selon lui. Voilà. Donc là, c'était vraiment là, on a pu mesurer concrètement le phénomène balayage. Ouais.
François, cette règle du balayage n'aura plus cours l'an prochain. Et évidemment, selon vous, c'est une bonne chose.
Disons que ça va rétablir une certaine équité, on va dire, dans le monde du rallye. Ce qui est bien, c'est que ce seront les pilotes a priori qui vont déterminer leur ordre de passage. Donc comme ça, ils ne pourront plus se plaindre de l'ordre de passage. C'est juste une mesure juste, voilà. Effectivement, Peter Solberg, ce qu'on a vu du rallye, il avait fait apparemment très fort. Il y a même une spéciale où il a collé 20 secondes à tout le monde. Alors là, Moi, je me suis demandé à ce moment-là s'il n'avait pas trouvé une coupe comme il l'avait fait à cette fameuse spéciale de Markham au Pays de Galles en 2003, où il avait dosé tout le monde. Mais bon, effectivement, le balayage, c'est le problème numéro un du championnat du monde des rallyes sur Terre. Ouais.
Mais on en a déjà parlé, mais il y a une solution qui est assez simple qu'appliquent notamment les Australiens dans leur championnat, qui rajoute en plus au spectacle, c'est de faire venir des voitures historiques avec des anciens pilotes qui, eux, assurent le balayage. Et après, les vrais concurrents du championnat peuvent s'élancer et il n'y a plus de problème de balayage.
Solution qui a été étudiée par Michel Mouton, mais personne ne voulait payer.
Hey, ouais. Voilà. Non, mais il devrait faire venir des drifters, ça serait encore mieux.
Il suffit de faire passer Ken Block et Latvala premier et deuxième, et la route, elle est nettoyée. Hein. On passe par les portières, donc.
Ouais, ou alors, il y a quand même des portions en ligne droite. Un drifter en ligne droite, ça c'est un peu difficile quand même.
Ouais, ou des petits camions verts avec des gros balais sous les roues. Les garçons, en tout cas, ce rallye a permis à Sébastien Ogier et Julien Gracia de s'imposer au terme de, franchement, trois jours de grosses bastons quand même. Ça a bien attaqué. Voilà, Sébastien Ogier qui égalise, je dirais, en termes de nombre de victoires avec Sébastien Loeb. Ils sont à égalité, trois partout. C'était chaud et ça va continuer de l'être. En revanche, et vous parliez à l'instant de Latvala, c'est terrible parce que, alors on le voit toujours présent, il claque des chronos terribles, et puis alors soudain, alors là encore une fois, alors apparemment la mécanique, Jérôme, que l'homme n'est pas un peu trop, ou pas assez soigneux avec sa mécanique?
Il a un petit côté Peter Solberg chat noir. La mécanique, après c'est dur de savoir si c'est lui qui a trop tiré dessus, ou si c'est un problème de fiabilité qui est quand même assez récurrent chez Ford cette année. Ils ont un souci de boîte, les nouvelles arrivent au prochain rallye en Finlande. Quand on change quelque chose sur une voiture, c'est qu'il y a un problème au départ. Il y avait une fragilité. Le rallye de Grèce, c'est pas le plus facile de la saison, loin de là. Et comme en plus monsieur Latvala, a sûrement pas vraiment tendance à soigner le matériel, ça n'aide pas.
Ça me semble assez clair tout ça.
Ouais.
Ça me semble assez clair. Christian Loriot sait faire des voitures qui vont vite. C'est pas la première fois qu'il fait des focus. Avant, il faisait des focus qui étaient assez rapides. Mais la fiabilité dans tout ça, je suis pas sûr que ce soit le critère qu'il retienne en premier, l'ingénieur chef de Ford.
En Grèce, ça marchait bien, habituellement, historiquement. Il restait sur 7 victoires en 10 ans. C'était plutôt pas mal avec la focus. Mais depuis le début de la saison, la Fiesta, c'est clairement pas ça. Déjà, niveau officiel, niveau client, on n'en parle même pas. Mais même s'il y a compétition avec Citroën, au niveau de la médiocrité des voitures clients.
Ah ouais?
Ah ouais, les, du côté de la famille Van Merkstein.
Oui, ça s'est pas très bien passé.
Non, mais l'aventure va se terminer très vite et vraiment pas bon copain. La famille Van Merkstein en a vraiment marre de ces casses à répétition sur les voitures. Bon, là, la Grèce, c'est un tonneau pour l'un et un arbre de face pour l'autre. Ouf. Donc là, Citroën n'y est pour rien.
Tout cas, messieurs, le podium de ce rallye de l'Acropole, Sébastien Ogier premier devant Sébastien Loeb et Daniel Elena à 10 secondes 5, troisième Mikko Hirvonen qui continue son petit bonhomme de chemin sans être trop largué.
Sauf que cette année, il est passé de transparent à diaphane.
Voilà.
Et on dirait un à le voir évoluer, discuter, piloter. On dirait un électrocardiogramme plat, Mikko Hirvonen.
Ah ouais.
Quoi qu'il se passe, là, il était dans le coup pour la gagne jusqu'à la fin. On voit pas, il y a rien, il y a pas d'étincelle, il y a pas la niaque, il y a rien, il y a plus rien.
C'est assez marrant parce que Latvala, pour la première fois, a balancé sur Hirvonen. Il vient dire exactement ce que Jérôme vient de prononcer. Latvala a dit qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait avec Hirvonen, à savoir qu'il manquait de fighting spirit, on va dire.
Yari Mati, quand il aura fini de croire qu'il fait un championnat du monde d'acrobranche et qu'il fera du rallye, on en reparlera aussi.
D'acrobranche, bonjour, très bien.
Non. C'est le championnat du monde des bûcherons, Latvala.
Ouais. N'empêche que, au terme de ce rallye, Sébastien Loeb est toujours en tête, donc on va le redire, il ouvrira la route en Finlande, même si le balayage est moindre quand même. Ouais. Sébastien Loeb, 146 points, devant Mikko Hirvonen, 129, donc 17 points d'avance pour le septuple champion du monde. Ogier est troisième avec 124 points, ce qui fait 22 points de retard pour Ogier. C'est pas énormissime, mais ça reste intéressant pour le champion du monde en titre. Et puis après, c'est un peu effectivement là le trou et la dégringolade pour les autres. 76 points pour Latvala, 73 pour Solberg. Donc, grosso modo, bon, même si certains arrivent à se refaire, j'en vois plutôt trois qui se détachent. Et puis, ça va se jouer entre ces trois-là et rien d'autre, forcément. Alors, on a vu que, évidemment, la tactique avait, encore une fois, pris le pas, ou en tout cas avait été utilisé par Sébastien Ogier, mais ce n'est pas le seul. Ils ont tous essayé, enfin en tout cas, ils ont tous surveillé ce que les autres faisaient. Cette bon sens de tactique a eu le don de mettre le feu chez Citroën, et notamment, alors Jérôme, vous y étiez, Sébastien Loeb qui, on le sait, désormais quand même un habitué à une certaine maîtrise, mais quand même, on sent qu'il y a un agacement certain avec ce balayage. Et puis finalement, il y laisse des plumes en termes... Alors là, pour parler stratégie, je dirais plus à long terme, par rapport au championnat du monde et à un huitième titre éventuel. Là, il y a des choses qui ne s'expliquent plus très bien pour lui.
Ouais, énormément de frustration. Avant le rallye, il avait pourtant un discours assez clair en disant « Bon, c'est un rallye pas évident, on ne sait pas ce que les voitures vont donner niveau fiabilité là-dessus, donc moi, un podium, ça m'irait très bien ». Sauf qu'il n'avait pas fini sa phrase, c'était « à condition qu'Ogier ne soit pas devant moi ». Parce qu'il y a maintenant une rivalité uniquement sportive, ça je crois qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Il n'y a aucun souci entre Loeb et Ogier, il
n'y
a aucun souci humain. Ils vont en boîte ensemble, ils boivent des coups ensemble, ils se voient au moins une fois de temps en temps entre les rallyes, même si ce n'est pas la règle. Donc il n'y a pas de souci humain entre deux, mais il y a une énorme rivalité. Là, Loeb était sur une bonne passe puisqu'il venait de gagner deux rallyes, mais finir derrière Ogier, ça, il veut que ça arrive le moins souvent possible, pas que pour ses intérêts au championnat, ou par fierté aussi, c'est un garçon extrêmement fier, extrêmement égoïste. Et donc voilà, chez Citroën, parce que Ogier a signé un contrat de pilote numéro 1, tout comme Loeb, donc on le laisse s'exprimer, on le laisse mener sa tactique à sa guise. Et comme beaucoup d'autres pilotes tout le week-end, il avait choisi non pas de se caler sur Peter Solberg ou sur Mikko Hirvonen au plan de la tactique, mais sur Loeb, parce que tout le monde sait bien que, quelle que soit sa position sur la route, Loeb est l'homme à battre. Donc il faut mieux rouler juste derrière lui plutôt que juste devant. Et là, voilà, bah, samedi soir, on a assisté à quelque chose qui est, à mon sens, François, corrige-moi si je me trompe, mais unique. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu Sébastien Loeb péter les plombs comme ça, de manière ouverte, devant micro, caméra. Même si c'est distillé comme ça, les bonnes infos quand il faut, c'est quelqu'un de très malin. Mais là, voilà, il est descendu de la voiture, il y avait toutes les caméras, il savait très bien déjà ce qu'il allait dire. Tout était... je parlais de pétage de plomb, c'est même pas ça, c'était une colère. Voilà, une colère exprimée publiquement pour, à mon avis, la première fois de sa carrière.
Et presque réfléchi, j'allais dire, la colère. Hein.
Ouais, parce que
une colère froide. Ouais.
Parce qu'il y avait eu un long routier entre l'arrivée de Spécial et le parc d'assistance. Routier pendant lequel il s'est engueulé très fort avec Sven Smets. Et voilà, il est descendu de la voiture. La colère était pas retombée, mais il fallait que ça sorte. Et c'est sorti envers les médias. Et ça, c'est la première fois.
En disant, je cite, « L'équipe en ce moment, ils me font bien rire.
» Pas le journal. Hein.
Non, pas le journal. Pas le journal.
Pas le journal, ouais.
Non, l'équipe Citroën, bien sûr.
C'est une tactique bizarre. Ouais. Cette équipe me fait bien rire depuis un moment. On a préféré privilégier la victoire de Sébastien Ogier plutôt que ma quête de huitième titre. C'est un signe pour l'avenir. Ça veut dire clairement qu'Ogier est le numéro un chez Citroën. Voilà. On ne pouvait pas être plus clair.
Et les caméras de nos confrères de France Télévisions, d'ailleurs, étaient là. Et on a vécu cela un peu plus tard le dimanche. Mais c'était parlant, c'était clair. Et comme vous le disiez, colère froide, je disais réfléchie. Mais ça donnait cette impression, quand même, quelque chose de fort et assez mûri, carré
C'est retombé aussi vite que c'est monté. Hein. Il a suffi d'une discussion avec l'équipe pour qu'il se calme déjà, même si il l'a toujours en travers de la gorge. Mais c'était vraiment un gros coup de colère.
Le problème de tout ça, en fait, c'est que pour la première fois depuis qu'il est champion du monde, ou même avant, depuis ses débuts, on va dire depuis 2003, il a une vraie menace, un pilote qui évolue à son niveau sur la Terre.
Un équipier, ouais.
Jusque-là, Sébastien Loeb était un peu l'extraterrestre pour tout le monde. Personne n'avait réussi à égaler son niveau de performance. Aujourd'hui, il a un concurrent qui est clairement à son niveau,
qui est dans son équipe,
parfois plus rapide, parfois sur certains endroits peut être plus rapide que lui. Et c'est en plus à l'intérieur même de l'équipe. C'est-à-dire que voilà, le problème, c'est qu'il est à l'intérieur de l'équipe. Ce qu'il reproche, c'est pas Sébastien Ogier qui reproche quoi que ce soit, mais en revanche, c'est la cible de Sébastien Loeb et clairement Olivier Kenel, Sven Smets, c'est-à-dire la cellule dirigeante de Citroën Racing.
Qui sont eux-mêmes piégés, puisque Sébastien Ogier a eu l'intelligence, quand il a eu cette proposition forte, de faire un gros coup de bluff et de dire, ben voilà, moi on me propose tant, vous me proposez beaucoup moins. Donc je veux bien venir chez vous, mais dans le contrat, il doit être stipulé que jamais vous ne me demanderez de m'écraser face à Sébastien Loeb. Donc sachant que Sébastien Loeb est plus proche de l'arrêt de sa carrière et que Ogier représente l'avenir, chez Citroën, on n'avait pas le choix. Si on voulait garder Ogier et pas se retrouver un peu à poil le jour du départ de Loeb, il fallait accepter cette clause dans le contrat de Sébastien Ogier. Donc bien joué Ogier, il a un peu piégé ses patrons, il a le niveau, donc il assume ce coup. Et puis voilà, ça chauffe, mais ça on commence à voir apparaître quand même des petits clans, hein, chez Citroën. Après ce coup de gueule de Sébastien Loeb, il y en a quand même pas mal qui lui ont reproché, qui parlaient de caprices d'enfants gâtés, de voilà, qui disaient que l'époque Fréquelin où tout était béni pour Loeb était terminée, qu'on lui amènerait plus ses titres sur le plateau, qu'il était assez grand pour se débrouiller. Il y a eu off the record des mots assez durs pour Sébastien Loeb.
D'accord. En tout cas, Sébastien Loeb reste un solide leader pour l'instant. Après ce rallye de Grèce, le rallye de l'Acropole, le prochain rendez-vous, c'est fin juillet, ce sera en Finlande. Où là, on va peut-être imaginer que les Finlandais vont être un peu plus à leur affaire. En tout cas, on attend ça avec impatience, parce que entre le combat entre les deux Sébastien et les Finlandais qui vont se refaire la cerise, ça pourrait attaquer fort. Et Ogier, lui aussi, aurait sans doute envie d'enchaîner. Hein.
J'ai presque envie de dire que c'est son objectif de l'année. Sébastien Ogier veut gagner la Finlande dans 4 semaines.
Et puis avec un peu de chance, il y aura peut-être un Norvégien qui reviendra mettre le bordel.
Oui, au moins la première journée.
Ouais. Et en plus, il faut le savoir, c'est quand même chasse gardée des Nordiques, enfin des Finlandais en tout cas. Seul Loeb, hein, c'est l'un des derniers Loeb à s'être imposé
Loeb
là-bas.
Et Sainz,
voilà. Joli programme en perspective. Pour l'instant, ils sont au repos, nos amis du rallye, et un peu d'essais aussi. Asphalte et terre, m'a dit Sébastien Loeb. Je crois qu'ils font aussi, voilà, quelques premiers essais asphalte en vue du rallye Allemagne. Voilà, ça c'est fait. En tout cas, on le rappelle, Sébastien Loeb leader, 146 points, devant Mikko Hirvonen, 129, et Sébastien Ogier, 124, à l'issue du rallye de Grèce. Prochaine manche, c'est en Finlande.
RTL l'équipe, la moto.
Les motards sont à Assen, comme le disait la semaine passée Gilles Delaposta. C'est la cathédrale, c'est... Le truc des motards, c'est Assen, circuit extrêmement particulier. Avec
c'est la seule cathédrale qui n'ouvre pas le dimanche quand même.
C'est vrai, absolument, c'est vrai, car on y refera le Grand Prix le samedi. Absolument, Bruno, vous faites bien de le faire remarquer. Nous allons d'ailleurs rejoindre là-bas, j'allais dire le prêtre de la moto, il va m'en vouloir. Salut Pierre-Henri.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour mon père.
Oui.
Très sympa.
Allez en paix, vos péchés vous sont pardonnés.
Merci Pierre-Henri.
C'était chaud hein, pour la dernière, on a eu peur qu'il le soit pas.
Pierre-Henri, nous sommes à Assen, un endroit vraiment apprécié, enfin vraiment, c'est un endroit magique pour les motards, avec beaucoup de public en général. Vous avez eu une météo un petit peu capricieuse qui a empêché le bon déroulement des essais libres. Où en est-on aujourd'hui, mon cher Pierre-Henri ?
Aujourd'hui, ça se déroule plutôt bien, et plutôt bien aussi pour le clan français, puisque Johan Zarco, sur sa lancée de Barcelone et de Silverstone, a réalisé d'entrée le meilleur temps ce matin. Il a largement dominé ses adversaires, donc tout va bien. Et d'ailleurs, si vous voulez lui parler, là, je suis avec lui, alors je peux...
Formidable. On peut pas faire mieux, Pierre-Henri. Bah écoutez, formidable,
voilà.
on va parler avec Johan Zarco.
Le nouveau héros.
Ouais, voilà. Absolument. Johan Zarco qui est troisième actuellement du classement mondial en 125, derrière Terol et Folger. Johan Zarco, bonjour. Allô, allô. Ah, peut-être que ça a disparu un petit peu. Ah, ça va revenir. Ça va revenir. Oui, les caprices de la technique. En tout cas, messieurs, c'est deux grands prix en une semaine après Silverstone où il y a eu de la pluie, où Casey Stoner dans la catégorie MotoGP a enchaîné un nouveau succès. Et mon cher François, il y en a un qui ne sera pas à Assen, c'est Pedrosa, car il a toujours mal à l'épaule. Il a aussi apparemment un petit peu mal à la tête.
Oui, mais enfin, il y a effectivement les dégâts occasionnés par son accident, son accrochage, on va dire, avec Simoncelli, au Mans, ont eu des conséquences plus graves que celles qu'on pensait, ouais. En fait. Et moralité, voilà, Pedrosa sur le flanc. Pour lui, a priori, la course vers le titre s'est encore râpée pour cette année, puisque, en plus, à l'intérieur même de son équipe, de la même façon que chez Citroën, il a un quasi-stunner qui est quand même, on peut le dire, au sommet de son art en ce moment.
Absolument. Alors, on a retrouvé Johan Zarco qui est avec nous. Bonjour, Johan.
Allô, allô. Non.
Non, il n'est pas revenu. Il n'est pas là, Johan Zarco.
Oui.
Il est là. Johan Zarco, bonjour. Bienvenue dans Carrément Moteur.
Merci, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Alors dites-moi, ça s'est bien passé, nous disait Pierre-Henri aujourd'hui, avec un très très bon chrono. Et puis la saison se déroule plutôt pas mal. Est-ce que vos ambitions augmentent au fur et à mesure que la saison avance ?
Oui, parce que c'est vrai qu'au début, voilà, l'objectif c'était d'atteindre les podiums. Maintenant que j'ai pu les atteindre, et que j'ai pu également gagner mon Grand Prix, même si on nous a un peu volé cette victoire à Barcelone, ben j'ai depuis réduit l'écart avec Tyrrell à Silverstone. Et là, oui, maintenant, ça donne envie d'aller à chaque fois grappiller un peu de points sur Tyrrell, qui est en tête du championnat, pour se bagarrer avec lui. Donc c'est clair que les ambitions ont augmenté, et maintenant les capacités sont là, il faut se battre pour y parvenir.
Et est-ce que, Johan, ça veut dire que maintenant, sur chaque rendez-vous, vous avez l'envie de vous battre pour les toutes premières places. Est-ce que franchement, ça devient chaud, chaud bouillant ?
Oui, parce que pas chaud bouillant, c'est toujours une question d'application, de méthode de travail. Mais là, c'est clair que depuis Barcelone, je ne vais pas digérer ce coup-là, et donc j'aurai, je pense, pas mal d'agressivité pour toute la saison afin de jamais lâcher celui qui est devant moi et pouvoir jouer la gagne un maximum de fois pendant la saison, ça serait bien.
Bon, Barcelone, c'est clair, ça vous a agacé ce petit contact à l'épaule et qui finalement vous a valu un déclassement. Vous ne l'avez manifestement pas digéré, mais ce qui est bien, c'est qu'il semble que ça vous motive en tout cas.
Voilà, un mal pour un bien, on va dire.
François, en tout cas. À vous, François.
Juste une petite question pour Johan. D'abord, bonjour Johan et bravo pour tes dernières performances. Ce qui m'étonne, c'est que Tyrrell, pendant tous les premiers Grands Prix de la saison, il survolait la concurrence, voire il mettait une seconde aux essais à tout le monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il est il est pas seulement rejoint, mais dépassé par la concurrence. Comment ça s'explique ?
Petit à petit, on a réduit l'écart avec lui. Le premier, ça a été Vinales au Grand Prix de France.
Oui.
Qui donc est resté avec lui et qui l'a battu sur le dernier tour. Ensuite, moi, pareil, à Barcelone, j'ai réussi à rester à son contact et me bagarrer avec lui jusqu'au dernier virage. Et tous ces genres d'événements, ça a pu y mettre un peu un coup au moral, lui couper l'herbe sous les pieds. Et voilà, ça, c'était une bonne chose. Maintenant, voilà, même s'il n'y a pas que moi, il y a d'autres pilotes qui peuvent y mettre la pression. C'est vraiment un sport mental. Et là, qu'il puisse perdre un petit peu confiance, c'est toujours un plus pour moi et même les adversaires.
Merci beaucoup, Johan Zarco. On vous souhaite bien évidemment un excellent week-end de Grand Prix et surtout, comme ce fut le cas sur les dernières courses, eh bien de vous battre aux avant-postes. Merci à vous, merci de votre disponibilité.
Merci,
à très vite.
C'est gentil de m'avoir appelé. Merci,
au revoir, Johan. Les garçons, là, c'est quand même pas mal. Il a l'air de s'illustrer. Ouais, Pierre-Henri. Ouais,
voilà,
Pierre-Henri.
Bah,
merci,
voilà.
Merci mille fois, Pierre-Henri. Alors dites-moi, mine de rien, Johan Zarco, franchement, il commence à impressionner avec régularité, j'allais dire.
Ouais, là, je discutais avec son chef mécanicien allemand, là. Il me dit, là, j'ai touché un bon. Il dit, de tous les pilotes à jour, c'est celui qui a le plus de potentiel. Le plus d'avenir, il est intelligent. Il est très intelligent. C'est un garçon qui réfléchit. Donc on a un bon pilote,
ouais.
Un prometteur avec de l'avenir.
Bon. Et un gros mental, visiblement. Ça fait plaisir d'entendre
un mec qui a la niaque, là, tout à l'heure. On parlait de Mikko Hirvonen. S'il a du temps libre, Johan Zarco peut faire psychologue de Mikko Hirvonen et lui apprendre ce que c'est que la niaque.
Il a absolument raison. Il est assez impressionnant là-dessus, notamment la façon dont il a digéré et exploité son échec de Barcelone. C'est quand même... il s'en est servi pour, au contraire, rebondir et c'est ce qu'il vous expliquait, avoir plus d'agressivité. C'est ce qui lui manquait un petit peu en course. Et là, maintenant, c'est sûr que Barcelone, ça a été un déclic, quoi. Il est régulièrement devant.
Ouais, parce qu'on le rappelle, Pierre-Henri, Barcelone, Johan remporte la course d'un cheveu sur, vraiment sur la ligne d'arrivée. Bon, petit contact à l'épaule, il a un peu écarté. Doucement embarqué son rival un peu sur l'extérieur de la piste, mais la sanction fut dure, soyons clairs.
Oui, on aurait pu le déclasser, mais le mettre deuxième.
Voilà.
Et on l'a déclassé de façon à ce qu'il ne figure pas sur le podium, donc c'était un peu dur pour lui. Là, il avait passé le coude, mais enfin, il n'avait pas fait un truc vraiment répréhensible. Voilà.
Absolument.
Donc lui, il vous l'a expliqué, il ne l'a pas digéré et ça lui sert de motivation.
Ouais, mais en tout cas, c'est bien. Alors, dites donc, côté motivation, il va en falloir pour les gars du MotoGP parce que il y en a un qui a l'air de se régaler un petit peu, c'est Stoner, en l'absence de son équipier qui aurait pu être aussi rival, Pedrosa, qui ne sera pas là, hein, toujours souffrant.
Ouais.
Et puis, il y a un monsieur comme Lorenzo qui a envie de se refaire la cerise parce que Silverstone, ce ne fut pas ça.
Oui, ce ne fut pas ça et il a bien conscience qu'il va avoir beaucoup de mal si on ne réagit pas fort chez Yamaha, parce que les Honda, non seulement celle de Stoner, mais celle de Dovizioso, celle de Simoncelli, vont très fort et il sent que Stoner, là, est en grande forme. Il vient d'aligner 3 victoires de suite. Donc Lorenzo, il sait qu'il n'a pas le choix. Hein. S'il veut gagner le titre, il faut qu'il gagne quand même quelques courses ou qu'il termine au moins devant Stoner.
Ouais, en effet, parce qu'on le rappelle au classement mondial, Casey Stoner est leader avec 116 points, Lorenzo 98, Dovizioso 83 et un peu plus loin, le docteur Valentino Rossi 68 points. Comment va le docteur, mon cher Pierre-Henri ?
Le docteur va pas trop mal, il a une nouvelle moto. En fait, chez Ducati, on s'est servi du... Il avait fait des essais avec la Ducati 2012, celle de l'année prochaine, qui aura le moteur 1000 cm3. Il s'est rendu compte que le châssis était excellent, lui convenait bien, puisqu'il avait été fait selon ses directives. Et Ducati a eu l'idée d'adapter l'actuel moteur 800 dans le nouveau châssis, ce qui est autorisé. Hein. Et apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Il est remonté au classement. Il était hier, avant que la pluie vienne interrompre, il était très bien. Il a même été leader à un moment de la séance. Donc, c'est un net progrès pour lui.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre-Henri, de toutes ces dernières informations. On le rappelle, le Grand Prix, c'est demain, samedi. Hein, à Seine, le circuit n'est pas ouvert le dimanche.
Exactement. Et donc, questions religieuses.
Voilà, absolument. Quelle météo est annoncée ?
Vous savez, on a les quatre saisons dans la même journée.
Ouais,
là,
ça va être chaud.
Et on s'est levé en bras de chemise. Là, on a remis les imperméables. Donc, c'est difficile. Ils annoncent du mauvais temps, hein, quand même, de la pluie.
Alors couvrez-vous, mon cher Pierre-Henri.
Ouais.
Couvrez-vous. En tout cas, Pierre-Henri, merci mille fois d'avoir collaboré avec nous.
J'étais enchanté de travailler en direct comme ça avec nos pilotes. C'était un vrai bonheur.
Eh bien, écoutez, on essaiera de renouveler la chose un petit
J'espère
peu plus
bien.
Tard, mais on ne sait pas encore quand, mais on
Espérons.
Y travaille.
Espérons.
Merci mille fois, Pierre-Henri.
Merci
très bon
à
week-end
tous.
De Grand Prix.
Merci
à très vite.
RTL L'Équipe, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Et de retour sur la piste, Carrément Moteur, alors on vous le dit depuis ce matin, c'est la DER, hein, on va fermer le garage, on ne sait pas, peut-être qu'on va refaire les peintures et puis qu'on va changer les serrures et qu'on rouvrira la porte du garage dans les prochaines semaines, nous verrons cela un peu plus tard. En tout cas, soyez les bienvenus, nous avons évoqué le rallye La Moto dans cette première demi-heure et vous l'avez entendu, l'un des plus solides espoirs de La Moto en France, Johan Zarco, était à Assen avec nous en direct grâce à Pierre-Henri Potrin et nous allons changer tout de suite de chapitre tout simplement.
RTL L'Équipe, la Formule 1.
La Formule 1 qui se retrouve ce week-end à Valence, en Espagne, pour le Grand Prix d'Europe, avec, j'allais dire, cette petite spécificité ou particularité. François, Jérôme, Bruno, vous l'aurez remarqué, on a été à Monaco, on a été ensuite à Montréal et nous voilà à Valence. J'allais dire trois circuits, alors presque urbains, ou en tout cas, ce ne sont pas des circuits permanents. Et à Valence, on le sait, autant on a vu du spectacle à Monaco, on avait vu du spectacle aussi à Montréal par la force des choses. Est-ce que, Bruno, Valence peut nous offrir un tel spectacle? Parce que franchement, jusqu'à présent, Valence, ça ne nous a pas beaucoup, beaucoup réjouis. À part si Mark Webber, qui avait fait un
voilà,
superbe envol.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, enfin, la seule fois drôle, où il s'est passé quelque chose d'excitant à Valence. Si, on peut dire que c'était excitant parce qu'il s'en est quand même bien sorti. Tiré sans une égratignure,
ouais,
donc
vrai.
C'était pas très grave. C'était,
pas si grave, en tout
c'était,
cas.
C'était la cascade de Mark Webber l'an dernier. Mmh. Mais autrement, Valence, le circuit est chiant, il est pas beau, le circuit même n'a aucun intérêt. Donc on espère que ça va pas durer 3 heures comme au Canada, parce que là franchement
4h04
4h04
si on a autant oui, enfin en tout cas si on passe la barre des 50 dépassements, ce qui est le cas sur pratiquement tous les grands prix depuis le début de la saison, c'est vraiment que le règlement technique
alors
aura
surtout
été efficace.
Ouais, surtout on va le dire François, comme à Montréal, on remet en route l'expérimentation, mais enfin là c'est plus une expérimentation parce que c'est renouvelé, avec une double zone de dépassement potentiel où on va pouvoir activer le DRS, hein François.
Exactement. Ouais. Alors déjà, pour ce qui concerne Valence, en effet, le circuit est parfaitement chiant. Il était parfaitement chiant les années précédentes. A priori, quand même, cette
c'est
année,
pas parce
grâce,
que c'est la dernière que
tu es
obligé d'être d'accord avec moi.
Perse plus DRS, d'une part, et les pneus Pirelli avec des degrés de dégradation très différents d'un type de gomme à l'autre. Ces deux caractéristiques font que le Grand Prix d'Europe à Valence pourrait offrir quand même un spectacle nettement supérieur cette année. D'ailleurs, le directeur technique, pardon, de Lotus Renault GP, James Allison, on est absolument persuadé, il le dit, on devrait voir beaucoup de dépassements pendant la course.
Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'avoir les premiers chronos, entre guillemets, en direct, grâce, là aussi, à deux de nos témoins privilégiés qui nous accompagnent depuis maintenant 4 ans. Il s'agit d'Anne Giuntini et de Fred Ferret du quotidien L'Équipe. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue. Alors dites-moi tout, Anne, ce matin, qui s'est montré le plus rapide et est-ce qu'on est content de se retrouver à Valence?
Alors ce matin, c'est Weber et on est bien content pour lui parce que l'année dernière, le pauvre malheureux s'était retrouvé presque dans le ciel avec sa voiture. Donc là, bah, écoutez, si ça pouvait démarrer sous de meilleurs auspices, c'est une bonne chose. Et il est devant Petrov. Enfin bon, il ne faut pas tirer trop de conclusions du vendredi matin. Alonso est bien et surtout, il dit que la victoire est beaucoup plus qu'un rêve aujourd'hui et se rapproche d'une réalité.
Ah, alors voilà un Fernand extrêmement motivé. Enfin, il est rare qu'il soit démotivé, le gaillard, car il trouve toujours... Il trouve toujours les ressources nécessaires pour en remettre un petit coup. Fred, ce Grand Prix d'Europe, alors est-ce que l'on peut y trouver quelques similitudes avec les tracés précédemment utilisés? Je pense à Monaco, je pense à Montréal, parce que on n'est pas sur un circuit permanent. Ça change beaucoup de choses pour les écuries.
Ça change beaucoup de choses au niveau de l'adhérence et du grip qui va être mis tout au long du week-end. En termes de comparaison avec Montréal, oui, ça y ressemble beaucoup. Et c'est ce sur quoi compte McLaren pour essayer de battre une nouvelle fois Red Bull. Oui.
Mmh. En effet, car on s'en souvient, l'ami Button avait été assez remarquable à Montréal. Bon, c'est vrai, dans un Grand Prix un peu particulier, mais il avait été, ça n'avait rien enlevé à son talent, ni même à sa performance. Oui, Bruno.
Alors justement, à propos de McLaren, Fred, Anne, dans quel état est Lewis Hamilton? Parce que alors, ces dernières semaines, on l'a vu dans un état de nerfs assez épouvantable. Est-ce qu'il s'est un petit peu calmé?
Vous voyez, c'est en cœur. Tous les deux,
on c'est un combattant, il changera pas. Hein. Chaque dimanche de course, il partira le couteau entre les dents et il sera prêt à tout faire pour gagner.
Anne, vous le ressentez aussi comme ça, avec un Lewis Hamilton déterminé?
Oui, complètement déterminé, il l'est toujours. Et puis sa petite crise, il l'a faite à Monaco, mais depuis il s'est calmé et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais le couteau entre les dents, c'est sûr. Oui, toujours.
Parce que, alors, vous qui êtes sur le bord des pistes lors de chaque Grand Prix, je pense à Ferrari, à McLaren évidemment, est-ce qu'il y a encore ce secret espoir
devenir taquiner Red Bull et puis pourquoi pas devenir les coiffer sur le poteau.
Ah oui, oui, toujours. On est à peine à la mi-saison. On n'a pas encore basculé. Donc, il peut se passer tellement de choses. Oui, 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 il faut se rappeler les années où on pensait où Fernando Alonso dominait chez Renault. Et je me rappelle que certains confrères disaient au Grand Prix d'Allemagne, ça y est, c'est fichu, il est champion du monde au prochain Grand Prix. Et puis, tout basculait au Grand Prix suivant et on arrivait au dernier Grand Prix et rien n'était joué. Ah oui, oui, il faut absolument... Enfin, non seulement il faut y croire, mais on a des raisons d'y croire. Tout peut changer encore. Oui, oui, oui. Surtout, non, d'abord parce que ce sont des écuries qui ont une énorme capacité de réaction, donc elles peuvent réagir. Et toutes ont des pilotes qui, quand même, sont des combattants de première bourre, pour parler vulgairement.
Oui, c'est vrai. Bruno.
Oui, Anne, on apprécie toujours votre optimisme, mais on se souvient aussi des années Schumacher où on disait la même chose, et c'était vrai.
Pareil, les années Schumacher, on disait pas qu'ils allaient revenir. Les années Schumacher, on disait au contraire, on disait qu'est-ce qu'on va s'ennuyer.
Et on s'est ennuyé, on s'ennuyait. Ouais.
Et on disait au premier Grand Prix. Non, je n'ai pas toujours été. Là, c'est pas de l'optimisme, c'est de la confiance raisonnée et que je n'avais pas à l'époque Schumacher, où il était clair que. Qu'on n'avait pas grande chance de le voir déranger par qui que ce soit.
Mmh. Là, on n'a pas grande chance de le voir déranger qui que ce soit maintenant, c'est différent.
Ah, allez savoir. Oui, oui, alors, François.
Alors là, je suis de nouveau confiante parce que je crois que Schumacher, on aura, et on a vu à Montréal, et je pense qu'on aura l'occasion de le voir de temps en temps revenir chatouiller ses petits camarades. Pas régulièrement comme je le pensais à un moment, mais on le verra quand même.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle. François, vous vouliez ajouter ?
Oui, juste une question à Fred et à Anne. Deux questions en fait. Les Ferrari ont montré quand même un regain de performance assez net à Montréal, même si ça ne s'est pas concrétisé au tableau d'affichage, si on peut dire. Est-ce que ça peut se confirmer à Valence ?
La réponse, c'est Button qui l'a donnée hier, en expliquant que s'ils étaient remontés sur la grille, c'est parce qu'ils avaient beaucoup travaillé sur le principe de qualification et la cartographie moteur. Et donc, comme on va leur retirer ce week-end, ils vont sans doute reculer un petit peu. Maintenant, en rythme de course, ils sont là, ils ont toujours été là, et particulièrement avec Alonso, parce que Massa est un petit peu en retrait. Donc, je ne crois pas qu'ils soient endormis entre... Alonso n'a pas pu voir ses résultats parce qu'il a laissé ses points dans un accrochage avec Button malheureux. Mais oui, il va être là ce week-end. Maintenant, c'est pas un grand prix pour lui, traditionnellement. Il a jamais beaucoup brillé ici. Hein.
En effet, oui. Et justement, Fred, vous mettiez là le doigt sur quelque chose d'important. On a décidé du côté de la FIA d'être un peu plus strict. Il n'y aura donc plus de possibilité pour les écuries d'avoir des réglages, en tout cas une cartographie moteur pour les qualifs et une pour la course. On ne pourra plus faire cela. Selon vous, Fred, Anne, est-ce que ça peut modifier beaucoup de choses pour les différentes écuries ?
Ça réduira la différence entre Red Bull et le reste du monde le samedi. Ouais. Mais en course, ça ne changera rien. C'est en course qu'on marque des points. Et que,
absolument.
Vettel était quand même devant tout le dimanche, même si les autres revenaient sur lui. Donc, je ne pense pas que ça bouleverse énormément l'échiquier.
D'accord. Anne, dites-moi...
Question oui, François. GP, ils ont apporté ce week-end une modification de leur aileron arrière avec le DRS. A priori, ce matin, sur la première séance, ça avait l'air de plutôt pas mal fonctionner. Est-ce que c'est une vision juste instantanée ou est-ce que ça peut être plus fondé que ça ?
Honnêtement, je ne tire pas de conclusion du vendredi matin.
Ouais.
Mais peut-être pas, honnêtement. C'est une réponse de Normand, j'en sais rien.
En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord que, on le sait, Sébastien Vettel est brillant, il va très vite, enfin tout ce qu'on veut. N'empêche que, quand il est un petit peu mis sous pression, et on l'a vu à Monaco lorsque Fernando Alonso revenait au triple galop, ça n'a pas pu se faire parce que la course a été interrompue, mais n'empêche que sous pression aussi à Montréal, le jeune Allemand a un peu craqué. Anne, est-ce que ça veut dire qu'il a encore des choses à apprendre ?
Alors, je n'appellerais pas vraiment ça craquer sous la pression, parce que Franchement, après tous les safety cars qu'il y a eu,
oui.
Il avait quand même bien tenu le choc en tête, alors que régulièrement, il perdait toute l'avance qui se construisait. Bon, c'est une faute qu'il aurait pu commettre, même sans pression. C'est vraiment une erreur infime. Et je ne sais pas si on peut la mettre sous le coup de la pression. Il y a encore des choses à apprendre, mais c'est sûr, mais même les plus grands pilotes, même au zénith de leur carrière, vous diront qu'ils ont encore des choses à apprendre. Et quand ils redescendent, comme c'est le cas de Schumacher, ils ont encore des choses à réapprendre ou à réviser. Et s'ils sont en F1 et s'ils n'ont pas envie d'en partir, c'est quelque part, ils pensent qu'ils ont toujours quelque chose à améliorer, à aller chercher. Ce sont des perfectionnistes. Donc oui, Vettel, certainement, de toute façon, a encore des choses à apprendre. Mais la gestion de la pression, je ne pense pas que ce soit un de ses problèmes prioritaires.
D'accord.
Et pour prendre la défense de Vettel, je voudrais qu'il y a une différence entre Button et Vettel à ce moment-là, c'est que Button a des pneus bien plus frais que lui.
C'est vrai, vous
et
avez
ça une aide, au moment du freinage, il y en a un qui a des pneus en lambeaux et l'autre pas. Et pour revenir à Monaco, Vettel avait des pneus en lambeaux et il a quand même réussi à tenir Alonso, ce qui n'est pas rien, et de manière très propre.
Vous avez absolument.
En termes de pression, il s'est quand même, il a commis une erreur à Montréal, oui, mais c'est pas, il finit deuxième et pas dans le mur, donc c'est pas non plus catastrophique.
Non, mais que voulez-vous, on essaie de trouver des petites raisons de se dire que ça peut encore arriver, que ce soit quelqu'un d'autre que
mais
Vettel qui soit devant.
Les pilotes McLaren, hein. Les pilotes McLaren disent qu'il faut continuer à mettre la pression, ils comptent sur Ferrari aussi, parce que personne n'est parfait quand on a des pilotes aussi talentueux que tout ce qu'on a cette année dans ses fesses.
En tout cas, ce Grand Prix d'Europe...
Entendre dire que les pilotes McLaren comptent sur Ferrari, c'est quand même du jamais entendu, Fred.
Non, ils disent, nous, on va mettre la pression,
oui.
Et on compte aussi sur Ferrari pour venir la mettre, et qu'on soit tous à pousser Vettel à
une sorte, d'alliance objective.
En tout cas, ils ont tous très envie de se battre encore, car comme l'a précisé Anne tout à l'heure, nous n'en sommes pas encore à la moitié de cette saison qui sera longue, très longue. Et pour l'instant, Sébastien Vettel est leader avec 161 points devant Jenson Button, 101 points. Donc là, il y a quand même, faut le dire, un gros écart, 60 points. Hein. Mark Webber est troisième, Lewis Hamilton quatrième, Fernando Alonso cinquième. Je pense encore à Lewis Hamilton et Fernando Alonso qui, malgré tout, madame, monsieur, ont pris, on payait cher quand même. Montréal, ça fait cher la facture, hein, pour l'un et pour l'autre, c'est zéro point.
Oui, bien sûr que ça faisait cher. Mais je voulais faire une comparaison avec le championnat du monde moto. Les années où Rossi dominait tout, il n'empêche que il fallait attendre très longtemps pour que le titre soit attribué. Il ne faut pas se laisser berner par ce système de points qui effectivement donne l'impression d'écart vertigineux entre les pilotes, mais ça peut rebasculer très très vite aussi. Donc, on peut garder confiance. Hein.
Donc vous êtes des reporters heureux, car il y a encore plein de suspense et il va se passer encore plein de choses au cours de cette saison. C'est en tout cas ce que l'on espère. On rappelle aussi que Red Bull au classement constructeur est assez loin devant, 255 points, devant McLaren 186, Ferrari 101 et quatrième Lotus Renault 60 points. Est-ce que Anne, Fred, les discussions qui ont eu lieu avec la FIA et aussi les constructeurs sont commentées dans le paddock, à savoir le choix du moteur pour les années futures qui a l'air d'être compliqué à trouver. En tout cas, le compromis est difficile à trouver.
On est très surpris de l'attitude de Renault qui militait ardemment pour un 4 cylindres en ligne et qui aujourd'hui a l'air complètement ravi d'un V6 turbo. Donc là, on ne comprend pas bien la logique. Ils avaient l'air de vouloir se battre absolument pour une chose à laquelle ils croyaient et qui semblait effectivement une solution futuriste et appropriée. Donc là, on est assez étonné. Après, on est moins étonné de la satisfaction de Ferrari. On n'a pas encore eu beaucoup de commentaires. On va avoir un peu plus d'explications cet après-midi de la part de la FIA. Donc, on attend pour y voir plus clair. Mais apparemment, tout ça est quand même très politique et beaucoup dicté par certains impératifs de marketing. Mais je crois beaucoup de politique ici. Ouais.
En tout cas, merci mille fois, Anne. Merci mille fois, Frédéric, d'avoir été avec nous toutes ces années.
On vous avez été pour nous des témoins précieux, car vu de Paris, on n'a pas toujours les bonnes sensations et vous nous avez toujours donné les bonnes infos. Anne, merci beaucoup. Fred, merci beaucoup. Bon
merci
Grand Prix, bon week-end de Grand Prix.
On a eu du plaisir à travailler avec vous, souvent qu'on l'a fait.
Eh bien,
bravo,
écoutez,
à vous.
Plaisir partagé. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
La Formule 1.
Alors, la Formule 1, c'est aussi, on le disait à l'instant, pas mal de politique, parce que...
C'est nouveau, ça, non? C'est la première fois.
C'est ça, ça vient d'arriver, mon cher...
Ils ont juste mis une petite dose de sport dedans, quand même.
Ouais, parce que, alors, on imaginait, oui... Voilà,
un petit peu de politique, un peu d'argent et beaucoup de sport.
On était arrivé aux 4 cylindres, finalement, on va peut-être passer à 6, puis il y a Ferrari qui dit, vous savez, nous, on a des 8 cylindres qui sont bien, même en retrouver des vieux qu'en ont 12, François, pourquoi pas, hein.
Allons-y, pendant qu'on y est, bien sûr. Oui, on va ressortir les vieux V12.
Non, mais en tout cas, c'est un joyeux bazar quand même. Hein.
Du 4 cylindres en ligne, c'est ce que disait Anne, est effectivement assez symptomatique. Renault faisait une condition sine qua non de sa présence en Formule 1 autour de ce futur moteur qui devait être un 4 cylindres en ligne avec un turbo, un litre 6. Et d'un seul coup, boum, ça y est, il tourne Kazakh. Jean-François Courbet, qui est le directeur de Renault Formule 1, avait déclaré pas plus tard que la semaine dernière que Renault entrait en zone rouge dans les négociations si on n'adoptait pas le moteur 4 cylindres. Aujourd'hui, ils en sont à dire le contraire. Donc, bon, c'est difficile de savoir où ce qui a bien pu se passer chez Renault pour que d'un seul coup on fasse volte-face et qu'on accepte avec un grand sourire un moteur V6 qui ne correspond absolument pas à leurs études, puisqu'ils avaient mené eux leurs études, leur développement sur le moteur 4 cylindres.
Pourvu qu'ils nous mettent pas le V6 en ligne des Aston
de la Clio.
Ou des Aston du Mans, on va être embêté. Ça va pas marcher longtemps. Ouais, en tout cas, c'est très politique et on essaiera évidemment dans le futur d'en savoir un petit peu plus parce que ce volte-face est assez surprenant, vous l'avez dit, François. Maintenant, bon, il va falloir quand même tous ces gens-là se mettent d'accord car le futur n'est pas si loin.
Ça c'est beau ça.
Ils nous disent tous 2013-2014, n'empêche que pour développer des moteurs, des nouvelles technologies, il va falloir s'y mettre très vite. Et donc, pour s'y mettre très vite, il faut prendre des décisions. Et comme ils ont l'art de traîner en chemin, on se demande bien ce qui va se passer. En tout cas,
ça va coûter beaucoup d'argent aussi. Hein,
mais le truc, il est là, c'est qu'ils voulaient tous travailler sur le terme à la mode, le downsizing. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont toujours des gros portefeuilles et qu'ils sont toujours prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Que faut-il penser, messieurs, de cette info qui est sortie? Alors moi, ça m'a fait bien rire. Mais alors maintenant, on annonce Button chez Ferrari. Non, c'est juste énorme. Mais oui.
C'est la rumeur du paddock, c'est Radio Paddock. Hein,
c'est génial quand même. Button, alors soudain, Button irait chez...
Ce qui est plus probable dans les transferts à venir, c'est sans doute la mutation de Lewis Hamilton en direction de Red Bull Racing à l'horizon 2013.
Ouais. Déjà, il y a quand même un indice, c'est que Lewis Hamilton a dit « Il n'y a aucune raison que je parte de chez McLaren, je suis bien chez McLaren ». Or, Lewis Hamilton est tellement menteur que c'est lui qui a inventé le mensonge. Donc, il y a quand même tout à parier que l'an prochain, il sera chez Red Bull.
Pas l'an prochain, mais en 2013, oui.
Ouais. Ou alors, c'est juste un coup de bluff pour prendre un salaire un peu plus... Attention, retenez-moi où je m'en vais. Retenez-moi avec beaucoup d'argent, sinon je m'en vais.
C'est un peu comme en football, quand un président dit « Je renouvelle ma confiance à Marcel Pochtron », le lendemain, Marcel Pochtron, il est viré. Donc,
la rivalité Weber-Vettel a déjà coûté tellement de points et de contre-publicité à Red Bull que je ne les vois pas aller se mettre dans un merdier noir en associant Vettel et Hamilton.
Un merdier noir, Hamilton,
oh là 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 là, il y a faute. En tout cas, il y a un homme qui lui va profiter de tout cela aussi, c'est Jenson Button, parce que la rumeur l'envoie chez Ferrari et en même temps il est en train doucement de renégocier son contrat, François, avec McLaren en prenant une grosse enveloppe au passage.
Oui, il a surtout bien bien fait de gagner au Canada, parce que ça lui permet de demander un peu plus d'argent à McLaren. Puis il faut pas oublier une chose aussi, c'est que apparemment quand même, et ça c'est off, c'est plutôt off pour l'instant, personne n'en parle, mais chez McLaren, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir soupé des caprices de star de Lewis Hamilton et de ses comportements. Et je pense que, je crois que la position de Lewis Hamilton chez McLaren n'est plus du tout aussi sûre qu'elle l'était, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Je crois qu'ils en ont un peu ras-le-bol de petit Lewis Hamilton.
Bon, bah écoutez, on verra ce que devient petit Louis. Mais c'est vrai que ce garçon reste un homme très talentueux, mais qui a tendance à... Bon, qui a fait des petites boulettes ces derniers temps, qui s'est énervé, qui parle, enfin bref, il vit sa vie, quoi. J'ai une bonne question pour vous, mon cher Bruno, je ne vais pas me gêner de vous la poser.
Voilà.
Que faut-il penser de cette info comme quoi il y a une réflexion qui est lancée par Matignon sur l'éventuelle recréation, j'allais dire, ou réorganisation d'un Grand Prix en France, avec notamment
ça coûte rien, hein.
le Premier ministre qui a délégué certains de ses hommes. Qui a délégué certains de ses hommes et qui a aussi délégué un petit peu à M. Gérard Neveu, qui a inclus dans la boucle le patron de Lotus, Renault, Éric Boullier. Franchement, ça vous paraît possible de revoir des formules en France, Bruno?
Ben, si c'est lancé par Matignon, ça me fait quand même bien rire, parce que bon, on sait la passion que vous, François Fillon, au sport automobile. On sait aussi quel est le...
Vous dites-vous, François Fillon, maintenant à moi, en me regardant. Non, c'est un jeu.
On sait aussi le calendrier, et on sait que l'an prochain, François Fillon sera plus Premier ministre, même si Nicolas Sarkozy repasse. Donc c'est très bien de lancer un calendrier.
Il en a des infos, Bruno, il en a plein les poches, hein. Il sait tout.
J'ai pas des infos, c'est-à-dire que je suis pas plus con que la moyenne, c'est tout.
Bon, ça termine en sucette cette dernière mission.
Et donc il peut lancer une mission d'information s'il veut, hein. C'est un peu comme quand on dit qu'on supprimera plus de postes dans l'éducation nationale en 2012, t'en sais rien, ça sera plus là.
Bon. François, est-ce que c'est vraiment crédible
ce projet Grand Prix de France?
Ouais.
Si le Grand Prix de France cherchait une place pour lui tout seul dans le calendrier de la F1, ce serait carrément mort. En revanche, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut pas oublier que le Grand Prix de Belgique aussi est un peu sur la sellette dans le sens où financièrement ils ont beaucoup de mal à rassembler les capitaux en Belgique. Donc le projet, ce serait de faire en alternance à la même date, chaque année au calendrier, France ou Belgique. Ce serait Spa et le Castellet en alternance, une année sur deux.
Ouais. Bon, bah écoutez, on va suivre ça de près. Moi, le Castellet, ça reste pour moi une énigme, parce que pour aller au Castellet, c'est pas beaucoup plus simple que pour aller à Manicourt. Donc là, il est gentil, Bernie, mais à part son hôtel en face du circuit, il n'y a rien de plus. En tout cas, sur le plan des infrastructures pour accéder au circuit, le Castellet, il va falloir construire des grands viaducs et puis des gros avions porteurs aussi.
Oui, il y a un aéroport, c'est bien.
Antonov.
On ira tous en jet.
Avec des Antonov, tous en voiture. Bon, ça c'était pour la petite info.
J'espère que les hangars ne sont pas trop serrés, parce qu'autrement les Airbus ne passent pas.
Les garçons, il y a aussi... ah bah tiens, voilà, on a de la visite. On reçoit Christophe Bourroux d'RTL. Christophe, qui a beaucoup œuvré avec nous, notamment au début de la création de la radio. Et si j'ai de bons souvenirs, mon cher Christophe, on avait même fait de la voiture du produit au Mondial de l'Auto.
C'était il y a 2 ans.
Oui, hein,
c'était sympa. C'était très sympa. Donc je tenais vraiment à vous dire au revoir. Surtout qu'en ce moment, je vous suis assidûment, parce que j'ai plus le temps de m'occuper de... Même pas passé aux 24 heures du Mans, parce que je suis omnibulé par les radars. C'est un petit peu tendance générale en ce moment, donc on est très, très radar. Très très radar.
Bon, en tout cas,
très bonne émission. Très bonne émission.
Bah, merci.
Plein d'infos. Sympa. Bah,
on essayait. Hein. Mais on a suivi l'exemple de la grande maison quand même. On avait un modèle, hein, c'est ça. Hein. On avait Autoradio,
oui,
c'était un modèle. Bon, en tout cas, c'est presque la fin pour nous, les garçons. On s'est bien amusés pendant 4 ans. On avait, excusez-nous du peu, mais on avait quand même des envoyés spéciaux sur toutes les épreuves, partout dans le monde. Même que des fois, on les réveillait tôt le matin. N'est-ce pas, Jérôme?
Non, moi, je ne me couchais pas, moi.
Ouais, c'est ça, vous aviez trouvé. Ouais, François, alors vous, en plus, maintenant, vous êtes une nouvelle forme de reportage, car vous,
François, lui,
vous êtes
envoyé spécial au Balto de Jouer les Tours, lui.
Permanent.
Au Tivoli
de Jouer les Tours. En tout cas, François, vous êtes avec nous, vous aussi, depuis 4 années. On espère qu'on va se retrouver à un moment ou un autre, parce qu'on va bien y arriver. Mais en tout cas, merci à vous, François, même en ce dernier jour.
Non, on recommence quand vous voulez.
mais on va tout faire pour, évidemment, on va tout faire pour, avec dans la joie, c'est sûr, et la bonne humeur, et avec Bruno qui est là
ouais,
aussi
non,
depuis le début.
De voir si on peut pas ajouter quelques bouteilles avec voilà des verres autour.
Ben on va essayer, on va se débrouiller.
C'est une bonne idée, ça.
Et Bruno qui est là aussi depuis le début. Bruno,
ah ben c'est moi qui ai construit la radio avec mes petites mains.
Ouais. Et qui avait commencé à dire quand même pas mal de vacheries.
Non, jamais. Jamais.
Car que ce soit clair, on a tout réécouté. Vous avez dit quand même un sacré paquet de vacheries.
Bah, et c'est pour ça qu'on me paye. Pas cher, mais qu'on
paye. Et d'ailleurs, retournez-vous. Il y a Latvala derrière vous. Il est là. Il est venu vous saluer.
C'est avec Bernie. Avec Bernie.
Ouais, en tout cas, on voulait tous vous remercier, vous saluer. Merci, Jérôme, d'avoir été avec nous depuis
très sympa.
De très longs mois aussi.
Un bel exemple de synergie. Et puis, voilà, pour nous, journalistes de presse écrite, c'est sympa de varier un peu les plaisirs et de pouvoir s'exprimer oui. comme ça librement.
Parce que
avec la voix.
On avait aussi les infos vraiment. Un petit peu avant tout le monde, de temps en temps. On avait aussi là les pilotes sur le rallye. Souvenons-nous que la semaine passée, nous avions ces deux copilotes. D'ailleurs, nous avions Julien Gracia et nous avions Daniel Elena qui était avec nous en direct ce matin encore avec Pierre-Henri Potra. Nous avons eu Johan Zarco. C'est dire si on se débrouille quand même avec nos petits moyens et nos petites mains.
Et merci à tonton Christian d'avoir supporté nos humeurs pendant 4 ans.
Alors ça, vous avez fait les cons, les gars. Et ça, il ne faudrait pas que ça se reproduise. François, salut, merci beaucoup. À très vite, François.
Bonne santé à tous.
Ouais. Bruno, merci. Jérôme, Christophe, merci beaucoup.
Merci.
Maxence à la réalisation aujourd'hui. Salut, à bientôt. On ferme le garage, on se retrouvera sous d'autres horizons. Allez, on va se débrouiller.
RTL L'équipe, la radio sport et info.